RCF.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette émission Effervescence. Effervescence, vous le savez, c'est le magazine de l'étonnement culturel. Et cette émission n'a jamais si bien porté son nom. Pour commencer, nous nous étonnerons de l'immensité du succès de la chanteuse américaine Taylor Swift. Quelle est donc sa recette pour embarquer autant de fans avec elle? Ils sont 283 millions à la suivre sur Instagram. Et puis, à la fin de l'émission, nous réaliserons, avec étonnement bien sûr, qu'avec le temps, le heavy metal est devenu un classique, que les tubes du hard rock sont maintenant des standards qui appartiennent à notre patrimoine musical et à notre paysage sonore, et que cette musique, où les guitares saturées rivalisent avec les cris gutturaux, mobilise encore de nombreux musiciens et de nombreux fans. Enfin, quoique un peu moins nombreux que chez Taylor Swift. Hein. Mais quand même, hein, plus de 200 000 visiteurs l'an dernier à Clisson pour le Hellfest Festival. Voilà, une émission un peu spéciale à préparer, j'avoue, pour moi, puisque je suis passée de l'écoute du dernier album de Taylor Swift à la playlist de l'exposition Metal à la Philharmonie de Paris. Mais on survit, je vous rassure. Hein. On découvre même quelques pépites. Et vous ? Vous êtes plutôt balade avec l'icône de la pop américaine ou gros son avec groupe mythique de hard ou jeune musicien métallo? Vous n'en savez rien? Eh bien, restez avec nous. Vous aurez une petite idée à la fin de cette émission. Sinon, dans Effervescence cette semaine, comme à chaque fois, des coups de cœur, deux belles expos, un film de guerre et une série de science-fiction. Et pour nous raconter tout ça, une chroniqueuse et un chroniqueur. Et une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par monsieur Stéphane Covio, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur de l'exposition Venez et Voyez. Vous avez l'habitude d'emmener des groupes dans les musées. Et dans Effervescence, ce sont nos oreilles que vous faites voyager dans les expositions. Alors cette semaine, vous avez vu pour nous la grande rétrospective Brancusi au Centre Pompidou. Et puis au Louvre, vous avez vu l'exposition sur Van Eyck proposée à l'occasion de la restauration de la Vierge Rollin, rare tableau de l'artiste conservé en France. Victoria Jacob, bonjour.
Bonjour Stéphanie.
Vous êtes la rédactrice en chef de Phosphore, le magazine des années lycées. Et vous, au cinéma, vous avez vu Civil War, qui imagine le retour de la guerre civile aux États-Unis. Et puis sur Netflix, vous avez regardé avec engouement la série Le problème à trois cœurs, adaptée d'un des chefs-d'œuvre de la science-fiction chinoise. Voilà, vous avez le programme, ne reste plus qu'à dérouler tout ça. On peut donc commencer Effervescence, et cette semaine, c'est Taylor Swift qui donne le la.
Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel.
En décembre dernier, le magazine Time avait consacré personnalité de l'année 2023 à la chanteuse américaine Taylor Swift. Elle succédait ainsi à Volodymyr Zelensky. Le motif de cette nomination avait alors attiré notre attention. Il était précisé que Taylor Swift avait apporté de la joie à une société qui en avait bien besoin. De la joie sur une radio où l'on essaie de partager la joie, forcément cela nous avait titillé. Depuis décembre, la popularité de l'artiste ne s'est jamais démentie et la jeune chanteuse, devenue à 32 ans une des reines de la pop, n'a cessé de faire la une des journaux et des réseaux sociaux, entraînant dans son sillage ses millions de fans, les Swifties pour les intimes. Comme toutes les stars, évidemment, on parle d'elle au rayon fait divers, sa popularité suscitant beaucoup de jalousie et attirant aussi les arnaqueurs de tout poil. Mais de façon plus surprenante, on parle aussi de Taylor Swift au rayon politique, économique et même écologique. À tel point qu'en février dernier, l'université de Melbourne en Australie lui a consacré un colloque. Mais bien plus que de sa musique, c'est d'abord et avant tout son modèle économique et ses relations avec ses fans qui ont été décryptées. Alors vendredi, quand est sorti son 11e album, on s'est précipité pour l'écouter et comprendre l'incroyable succès de cette jeune chanteuse de country. Elle a grandi à Nashville, devenue une des plus grandes stars au monde, qui concentre sur elle tous les records artistiques, mais surtout capitalistiques. Mais d'abord, je vais me tourner vers Victoria Jacob. Quelques mots sur cet album. Alors, je vais essayer de le prononcer. C'est Tort Poets Department, ouais, c'est comme ça qu'on dit, ouais. Dont nous venons d'écouter le morceau d'ouverture. Alors, je vais être honnête, hein, moi personnellement, je m'attendais à une machine à tube, un truc qui enchaînerait les morceaux sur lequel la planète allait danser tout l'été. Bien, pas du tout, hein, vous avez entendu, il s'agit plutôt d'une longue balade romantique.
Oui, alors je dois confesser que moi non plus, j'ai pas une passion folle pour la musique de Taylor Swift.
Et je crois que vous êtes sur écoute, vous pouvez pas.
Oui, alors j'espère que ma fille écoute pas l'émission parce qu'elle est super fan, donc je vais trop me faire pourrir ce soir en rentrant. Bon, bah alors cet album. Alors moi je connaissais quelques chansons de Taylor Swift, ses grands tubes, Shake It Off, des choses comme ça, qui étaient plutôt entraînants, de la pop sympa. Donc je suis allée sur cet album motivée, on va dire. Bon ben voilà, j'ai trouvé que c'était un peu de la soupe. Il y a d'abord 16 premiers titres, puis un deuxième album qui est sorti donc le lendemain, une anthologie, donc ça en fait 30. Et quand on s'écoute les 30 à la suite, quand même...
Ce que vous avez fait, parce que vous êtes très sérieuse pour
préparer l'émission. Je suis extrêmement sérieuse pour la préparation. Et ben, on a l'impression d'écouter quand même toujours la même chanson. Moi, je trouve qu'il y a trois peut-être morceaux qui surnagent. Fortnite, qu'on vient d'écouter, qui est une collab avec Post Malone.
Qui est un rappeur.
Voilà, qui est un rappeur.
Une collab, c'est une collaboration.
Pardon, oui. Dans la musique, ils disent un featuring. Voilà. Donc, il y a un featuring avec Post Malone. Et puis, il y en a un autre avec Florence and the Machine sur le titre Florida, que je trouve entendable. Les autres, j'avoue, je les mélange un peu. Donc, en échangeant avec mon adolescente de fille et donc fan de Taylor Swift, on m'a expliqué qu'en fait, l'intérêt, c'est surtout les paroles. pas tant la musique que les paroles.
Elle parle de quoi, alors?
Elle y raconte toute sa vie. Elle y raconte toute sa vie, ses petits malheurs, ses ex. Alors, il y a des trucs rigolos parce que là, il y a une chanson qui s'appelle « The Smallest Man Who Ever Lived ». Donc le plus petit gars qui ait jamais vécu, il paraît que c'est un de ses ex, un acteur qui se prend un petit taquet justement au passage. Et donc toutes les chansons sont comme ça, elles racontent ses petites dépressions, ses malheurs, etc. Et en fait, je crois que c'est ça qui plaît vraiment aux fans, c'est qu'ils ont l'impression de la connaître extrêmement bien, de par cette proximité avec ses titres et avec ses paroles. Après, moi, il y a un truc qui m'étonne, dont on parlait un peu avec Stéphane juste avant, c'est comment une fille qui est aussi riche, qui a autant d'argent, ne s'entoure pas de bons musiciens.
On n'a pas dit, c'est elle qui écrit et qui compose?
Oui, je crois. Mmh. Oui, je crois qu'elle compose aussi toutes les musiques.
Voilà, c'est ça quand même.
Mais bon, quand même, elle doit avoir des conseillers, quelqu'un qui peut-être qui lui dit à un moment.
Stéphane, je crois que vous n'êtes pas forcément un fan de la pop, mais vous avez quand même écouté l'album, et alors?
Oui, alors j'ai découvert que je n'étais pas un Swiftie,
oui,
figurez-vous. Mais alors, pas du tout. Et pourtant, j'y suis allé vraiment plein de bonne volonté. Et j'ai vraiment réécouté en plus certains morceaux pour en arriver à la conclusion que, comme l'a dit Victoria, c'est de la soupe. C'est-à-dire, en fait,
moi, je dirais que c'est de la guimauve.
Oui, c'est pas mal non plus, ouais. Guimauve comme expression. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'a pas d'aspérité comme la guimauve, vous voyez, c'est mou. Il n'y a pas de pointe, ça ne descend pas, ça ne monte pas, tout se passe dans une tranche assez régulière. On s'ennuie. J'ai pensé que ça pouvait peut-être faire de la musique de supermarché intéressante. Pourquoi pas? Je sais même pas. Faudrait tester. C'est vraiment pour moi le creux. Et en plus, les clips, c'est pareil. Pour moi, c'est vraiment aussi nul. C'est-à-dire que c'est kitsch, 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 kitsch. Et c'est vide, il n'y a rien. Enfin, franchement, je ne comprends pas une seconde l'intérêt artistique qu'on peut avoir pour ça. Alors, heureusement, il y a les paroles. Elle rejoint certainement d'autres personnes par les histoires qu'elle raconte, etc. Je pense que c'est là le secret, parce que artistiquement parlant, c'est vraiment rien.
Alors, on va écouter Parce que moi, il y a quand même quelques morceaux que j'ai bien aimés. On va écouter le morceau dont vous parliez, Florida, où elle partage l'affiche avec Florence and the Machine. C'est peut-être le morceau le plus énergique de l'album. Et puis après, quand même, les auditeurs doivent se demander pourquoi est-ce qu'on en parle, si ça ne nous a pas plus transcendé. On va après décrypter le phénomène, parce que c'est vraiment intéressant. You can be the heat if you beat the charges too. They said I was a cheat. Guess it must be true. And my friends all smell like weed or little babies. And the city reeks of driving myself crazy. Little did you know your home's really only a town you're just a guest in. So you work your life away just to pay for a timeshare down in Destin. Florida is one hell of a drug. Florida. Hurricane was my name when it came. I got drunk and I dared it to wash me away. Barricaded in the bathroom with a bottle of wine. Well, me and my ghost, we had a hell of a time. Yes, I'm haunted, but I'm feeling just fine. All my girls got their lace and their crimes. And your cheating husband disappeared. Well, no one asks any questions here. So I did my best to lay to rest all of the bodies that have ever been on my body and in my mind. They sink into the swamp. Is that a bad thing to say in a song? Little did you know your home's really only the town you'll get arrested. So you pack your life away just to wait out the shitstorm back in Texas. Florida. Pas mal ça, quand même.
Je suis d'accord. Je l'ai dit. Hein, que ouais. Moi, j'aimais bien celle-là.
C'est pas mal, mais comment dire, elle passerait à The Voice. Elle serait pas sélectionnée à l'aveugle. Mais non, parce que c'est pas une personne. Moi, quand j'ai écouté ça, alors Florida, c'est peut-être un des meilleurs que j'ai entendu dans l'ensemble. Mais je me suis demandé si c'était pas une machine qui fabriquait cette musique, si c'était pas algorithmique. Je sais pas, parce que je n'entendais pas une personne.
Ça manque de chair.
Ça manque totalement de chair.
Bon. Au-delà de la musique, je crois que ce qui est intéressant dans Taylor Swift, c'est de s'intéresser au phénomène. Parce que avoir aujourd'hui 283 millions de followers sur Insta, ça compte. Ça pourrait même peser dans la présidentielle américaine. Mais alors, avant de vous expliquer pourquoi, je voudrais, Victoria, que vous nous campiez un peu plus le personnage, qui est quand même assez fascinant. Comment elle en est arrivée là? Au début de l'histoire, on a affaire à une gentille chanteuse de country.
Oui, elle a commencé, donc elle est née à Nashville. Et elle a sorti un premier album à 16 ans de country qui dépoussiérait quand même déjà un peu le genre, parce que quand même la country, c'est quand même des vieux mâles blancs qui trustent ce style. Donc elle sort, elle détonne un peu, elle fait son petit bonhomme de chemin et puis tout doucement elle va bifurquer vers de la pop et ça marche assez bien. Voilà, elle grimpe doucement dans les charts, etc. jusqu'en 2009. Et en 2009, il y a une remise de prix des MTV Awards, je crois, où elle se fait humilier sur scène par le rappeur Kanye West, qui à l'époque est quand même un des gars qui vend le plus dans le rap.
Donc aujourd'hui, c'est plus compliqué pour lui.
Oui, hein, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué pour lui, hein, et c'est bien que ce soit compliqué pour lui. Après cet événement, donc elle se retrouve quand même sur la scène, elle se fait humilier, elle reçoit un prix en fait, et lui monte sur scène, lui prend le micro et dit qu'en fait ça aurait dû être Beyoncé qui aurait dû avoir ce prix, que son clip était meilleur, etc. Elle se retrouve un peu comme une potiche sur la scène, toute seule, c'est la honte. Elle continue à s'embrouiller avec lui par post Instagram interposé, etc. jusqu'à 2016 où tout d'un coup elle disparaît de la circulation, elle supprime son compte Insta et tout le monde la déteste un peu parce qu'elle passe un peu pour une peste et puis une fille qui sait pas trop ce qu'elle veut, etc. Donc elle disparaît et elle réapparaît un an plus tard, transformée. en mode Taylor version combative, revancharde, niveau look, elle a abandonné le style première de la classe chanteuse de country, elle est passée femme fatale, gros maquillage noir, etc. Donc c'est vraiment, elle arrive, voilà, elle a changé. Quelques années plus tard, en 2019, ça c'est hyper intéressant, elle apprend qu'un producteur, un pote de Kanye West, a racheté les droits de ses 6 premiers albums. Comme elle refuse que ce soit un copain de son pire ennemi qui se fasse de l'argent sur ses albums, elle décide de faire un truc complètement dingue, elle réenregistre les 6 albums et elle demande à ses fans de n'écouter que ceux-là et donc potentiellement de les racheter aussi. Donc tous ces albums ressortent avec une petite parenthèse, Taylor's Version. Et ça cartonne.
Et c'est vrai que moi, si vous allez sur Spotify, par exemple, vous voulez écouter une chanson de Taylor Swift, vous avez les deux versions. Donc, vous choisissez celle que vous voulez.
Voilà. Et ça, déjà, c'est un truc quand même assez historique de pouvoir faire ça et d'avoir des fans suffisamment accros et suffisamment attachés à elle pour racheter les albums. Parce que écouter sur Spotify, effectivement, c'est une chose, mais remettre encore de l'argent pour se racheter un disque, c'est autre chose, quoi. Donc ça, c'est son premier truc vraiment vraiment historique. Et après, elle a continué à creuser sa voix, à creuser son chemin jusqu'à aujourd'hui peser énormément. C'est quand même la chanteuse la plus écoutée au monde.
C'est la chanteuse de tous les records.
Ouais.
Et donc l'artiste qui fait trembler les républicains et l'entourage de Trump. Alors expliquez-nous pourquoi.
Alors, on sait qu'elle a du poids, mais pendant des années, elle a jamais donné aucun indice sur ses penchants politiques. Mais aux États-Unis, on fait vite le compte. Country, blanche, hétéro. Allez, ça doit être républicain tout ça. Donc, très vite, on l'a imaginé de droite. Et voilà. Dès 2018, elle déclare dans un post Insta son soutien aux candidats démocrates lors des élections législatives. Et elle appelle surtout ses fans à s'inscrire sur les listes électorales pour donner de leur voix et participer. En 24 heures, c'est 60 000 nouvelles inscriptions. Et c'est le premier témoin en fait de sa force de frappe, en fait, de se dire qu'en 24 heures, il y a 60 000 jeunes fans qui sont inscrits pour voter. C'est vraiment le gros.
Là, ça fait réfléchir.
Voilà, son gros moment. Suite à ça, elle va aussi s'engager pour l'avortement, donner plusieurs positions politiques qui montrent qu'elle est démocrate. Et donc aujourd'hui, la rumeur enfle, disant que celui qui aura le vote de Taylor Swift, qui aura son adoubement, pourrait remporter cette élection, sachant que les primo-votants, ceux qui vont voter donc pour la première fois à cette élection, sont de cette génération de Swifties et de fans de cette chanteuse.
Alors notez aussi que Taylor Swift, c'est une femme d'affaires, avec une relation, vous l'avez dit, très particulière avec ses fans, mais une relation qui génère des millions de dollars. C'est ainsi la première artiste milliardaire. On n'a pas évoqué sa tournée, mais elle a fait une tournée gigantesque. Hein, et il a été démontré que ses fans dépensent plus que n'importe quel fan pour aller à un de ses concerts et qu'il y a un impact économique pour toutes les villes traversées. John Williams, qui est le président de la Fed, la réserve fédérale américaine, parle d'un effet Taylor Swift sur l'économie des États-Unis, rien que ça. Bon, bien sûr, le gigantisme de la tournée ne rime pas, vous imaginez, avec sobriété. Et Taylor Swift est également l'artiste qui pollue le plus. Et elle est régulièrement montrée du doigt par tous ceux qui s'inquiètent de l'avenir de notre planète. Voilà, il y aura bientôt un Playmobil à son effigie. Vous pourrez vous l'offrir. Vous pouvez également vous offrir ses albums. En revanche, traverser la planète pour l'écouter et ruiner vos économies et Clina, ce n'est pas forcément nécessaire. Bon, elle sera à Paris et à Lyon dans quelques jours, mais évidemment, c'est déjà complet. Allez, on l'écoute une dernière fois. The smoke cloud billows out his mouth like a freight train through a small town. The jokes that he told across the bar were revolting and far too loud. They shake their heads saying, God help her when I tell him he's my man. But your good Lord doesn't need to lift a finger. I can fix him, no, really I can. And only I can. The dopamine races through his brain on a 6-lane Texas highway.
his hand, so callous from his pistol, softly traces hearts on my face. And I could see it from a mile away, a perfect
game. I can fix him, no really I can. C'est un des rares titres de l'album où on entend encore un peu de guitare country. Stéphane, vous voulez nous dire quelque chose sur la personnalité?
Oui, parce
Taylor
que
Swift.
J'ai dit beaucoup de mal sur sa musique, mais en me renseignant sur sa vie, je me suis rendu compte qu'elle avait visiblement apporté des choses aux artistes eux-mêmes, c'est-à-dire dans leur rapport à l'industrie, sur la question des droits, etc. Il y a vraiment un avant et un après, et beaucoup lui sont redevables, semblerait-il en tout cas.
Voilà, c'était donc Taylor Swift. Vous écouterez son nouvel album, The Torture Poet Department, et puis les prochains jours et les prochaines semaines, nous dirons si elle décide de s'engager un peu plus dans la campagne américaine.
Effervescence, Stéphanie Gallet.
Nous étions aux États-Unis, eh bien nous y restons, mais cette fois-ci le contexte ce n'est pas la campagne présidentielle, mais dans un futur plus ou moins proche, la guerre civile qui déchire à nouveau le pays.
Citoyens d'Amérique, ceux de l'Alliance de Floride et des forces de l'Ouest du Texas et de Californie doivent être informés qu'elles pourront réintégrer les États-Unis à la seconde où leur gouvernement sécessionniste illégal sera renversé.
Vous ne savez même pas de quel bord ils sont.
Il y a des mecs qui essaient de nous tuer. Et nous aussi, on essaie de les tuer.
Victoria Jacob, vous avez été au cinéma voir Civil War, et dans cette guerre civile qui reprend aux États-Unis, on suit des reporters de guerre.
Ouais, alors c'est un film étonnant, parce que l'affiche laisse penser à un gros blockbuster vraiment plein d'explosions, etc. Et c'est pas tout à fait ça en fait, c'est un peu plus fin que ça. Donc c'est un film qui nous plonge dans au cœur d'une Amérique divisée, au cœur d'une guerre qui fait rage dans le pays. On y voit flotter un drapeau à deux étoiles, celle du Texas et de la Californie, qui sont deux États qui se sont alliés pour renverser le gouvernement devenu une dictature. La guerre civile fait donc rage et les milices se rapprochent de Washington où s'est caché le président. Les actes de violence se multiplient dans tout le pays et c'est dans ce territoire vraiment hostile qu'évolue un groupe de quatre journalistes qui tentent de rallier la capitale où ils aimeraient interviewer ce président qui s'apprête à tomber. Ils ne sont équipés que de leur matériel photo et ils doivent faire face à une armée chargée de tirer à vue sur la presse. C'est vraiment un road trip mortel dans lequel ils se lancent, car chaque rencontre peut s'avérer fatale. Alors, faut le dire tout de suite, ce film, comme son sujet l'indique, hein, mais c'est très violent. Certaines images sont assez choquantes. L'ambiance est oppressante. Il y a vraiment, au fur et à mesure, la tension monte et on est vite scotché dans son siège, pardon. Mais c'est vraiment ce qui en fait un film intéressant. Ce qui est aussi notable et passionnant, c'est que le réalisateur n'a pas choisi la facilité de créer une guerre manichéenne entre eux, des gentils progressistes démocrates et des méchants républicains conservateurs. Au contraire, il pointe personne du doigt. Et du coup, il laisse un flou s'installer qui rend le conflit assez abstrait, mais du coup, passionnant à suivre dans ce film, parce que plus ça avance, plus on a du mal à identifier les différents camps et à comprendre les tenants et les aboutissants de cette opposition. Il y a notamment une scène incroyable d'une tension folle durant laquelle les journalistes se retrouvent face à un soldat, une arme d'assaut à la main, et il leur demande « Quel genre d'Américain êtes-vous ?» Et en fait, le problème, c'est qu'ils ne savent pas quoi répondre. Parce qu'en fait, ils ne savent pas de quel bord est ce type. Donc, ils sont complètement paniqués. On ne sait pas ce qu'il faut répondre pour avoir la vie sauve, et eux non plus. C'est un choix scénaristique que je trouve vraiment déroutant, mais en même temps très pertinent. Et c'est peut-être même aussi un vrai choix politique du réalisateur. Le casting est impeccable. C'est un bel hommage au métier de reporter et photo-reporter de guerre. On ne peut pas ignorer, en sortant de Civil War, les risques qu'ils prennent pour informer la population et rendre compte des conflits dans le monde. Pour finir, je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'il y a 30 ans, le réalisateur, qui s'appelle Alex Garland, publiait un roman intitulé « La plage », dans lequel un groupe de jeunes jeunes backpackers utopistes cherchaient un paradis perdu dans un lagon thaïlandais. Aujourd'hui, il met en scène une Amérique à feu et à sang. C'est quand même un sacré symbole du changement d'époque.
Voilà, ça s'appelle donc Civil War et c'est sorti ce mercredi au cinéma. C'est la grande exposition parisienne de ce printemps, la rétrospective au Centre Pompidou, consacrée au sculpteur d'origine roumaine, Constantin Brancusi. Une exposition construite, Stéphane Covio, autour de l'atelier du sculpteur.
Oui, parce qu'en fait, à Paris, on a la chance d'avoir le legs que Brancusi a fait à la fin de sa vie, en 1957, de tout ce que contenait son atelier. Donc, c'est-à-dire un certain nombre de statues, des socles de statues, des outils, des encadrements de portes, du mobilier qu'il a réalisé lui-même. C'est intéressant parce que tous les gens qui ont connu Brancusi, que ce soit avant la guerre 40 ou après, disent que c'était une expérience incroyable que d'aller le voir chez lui dans son atelier, où il y avait une mise en scène de ses œuvres, de sa vie.
On redonne les dates de Brancusi.
Alors, Brancusi, il est né en 1876. En Roumanie, dans une famille de paysans, d'un petit village, des Carpates, donc vraiment très très éloigné, très proche d'une Roumanie traditionnelle. Dans sa famille, il y avait des sculpteurs sur bois, il y avait, comment dire, pas des sculpteurs artistes, mais des gens qui travaillaient le bois, en fait, des menuisiers, des charpentiers. Et il y a une tradition du bois localement. Évidemment, ça va jouer sur sa manière de sculpter, d'appréhender le matériau bois par la suite. Et puis donc, il est entré dans une école des beaux-arts locale, et puis il a fait l'école des beaux-arts de Bucarest. Et puis à l'âge de 27 ans, il a décidé de venir à Paris. Il est parti à pied, il est passé par Budapest, il est passé par Vienne. Et là, il s'est installé assez rapidement à Montparnasse. Et il va trouver un atelier dans les années 20, Impasse Ronsin. Alors, c'est un lieu qui n'existe plus aujourd'hui. C'est occupé par des extensions de l'hôpital Necker. Ça a été détruit dans les années 70. Et petit à petit, il va louer ou acheter, je ne sais plus très bien, d'autres endroits de cette impasse, en fait, qui était occupé par plein d'artistes. C'est un lieu qui était... C'est des ruelles avec des ateliers, avec des gens connus hein, aussi dans cet atelier. Je ne sais plus lesquels, figurez-vous. Mais bon,
c'est pas grave.
Ils étaient là. Ça va être son lieu de vie, une vie assez simple. Alors, je vous donne une description, par exemple. Les gens arrivent là, ils voient un homme en blanc de travail, pas mal de marbre autour, les murs peints en blanc, de la poussière blanche un peu partout, un chien blanc à un moment donné, quelqu'un de très gentil, de très doux, mais qui parle peu, qui parle bien, qui parle français un peu assez mal, avec un fort accent roumain, qui mélange parfois des mots roumains à des mots français. C'est quelqu'un qui est profond, qui a une parole quand même assez rare. Par exemple, dans les écrits de Brancusi, vous avez beaucoup d'aphorismes. Alors c'est intéressant parce qu'un aphorisme, vous voyez, c'est une formule qui est assez condensée. Et sa sculpture, venons-y, c'est une sculpture condensée. Il n'y a pas énormément d'œuvres, même en corpus d'œuvres, il n'y en a pas tant que ça. Et puis, ce sont des œuvres qui sont très épurées. Par exemple, Visage de femme. En fait, l'œuvre de Brancusi, je crois que tout le monde a déjà vu, c'est celle qu'on appelle la Muse endormie. C'est une tête de femme. Celle qui est exposée là à Beaubourg en ce moment, c'est une tête en bronze. Elle est juste posée sur un socle, donc comme si la femme était allongée, mais on ne voit que la tête. C'est le bronze a été poli à la perfection sur une grande partie du visage, et ce qui fait que c'est un miroir. Et en revanche, la chevelure est plus travaillée en relief et plus avec des patines brunes. Donc, et quand on voit cette tête, on est un peu perturbé parce que c'est un miroir. Donc, en fait, il y a les reflets de tout ce qu'il y a autour. Il y a la lumière ambiante. On ne sait plus très bien où est la peau même de la statue elle-même. Et en même temps, c'est très féminin, c'est très beau, c'est très délicat. Toute la statuaire de Brancusi est marquée par cette forme de pureté, de simplification des traits, du dessin, des volumes, avec quelque chose qui est de l'ordre de la fluidité, le passage de la lumière sur le bronze, évidemment. Mais il a travaillé le plâtre, il a travaillé le bois, j'en ai parlé tout à l'heure, avec des effets très différents, bien entendu, parce que vous voyez, quand vous avez le bronze, ça n'a rien à ce bronze parfaitement lumineux, avec le bois qui est au contraire quelque chose de très brut, c'est des bois pleins. Des blocs, Et ce qui est assez remarquable aussi avec Brancusi, c'est le rapport entre les socles des statues, les socles étant de lui, brut, solide, dense, et les pièces sculptées au-dessus, souvent quand c'est des motifs féminins, et beaucoup de motifs féminins ou des motifs d'oiseaux, c'est la légèreté, c'est l'esprit, c'est quelque chose qui est radicalement différent. Et il y a ces jeux de contraste entre les matériaux et les sensations qui sont très beaux. Il y a plein de belles choses là, hein.
Stéphane, un conseil pour visiter cette exposition, parce que j'aime bien vos conseils pour visiter les expositions.
Mon conseil, c'est que l'exposition commence par un long parcours avec des documents, un peu dans l'obscurité, des petites choses, des lettres, des photos, des petits films, etc. Quelques œuvres aussi. C'est long à consulter, c'est long à lire si on suit les choses précisément. Et après, on arrive dans de grands espaces où il y a des œuvres. Moi, je conseille d'aller directement dans les fameux grands espaces derrière, de voir, alors là, des grandes salles blanches avec les différents portraits féminins, avec leur évolution, parce qu'il prend le même motif qu'il transforme au fur et à mesure du temps. Aller regarder ça, les fameux oiseaux dans l'espace, puis après, revenir après, s'intéresser aux documents. Moi, je privilégie toujours la relation à l'œuvre avant la relation au savoir.
Ça se passe donc au Centre Pompidou à Paris. C'est une des dernières expositions du Centre Pompidou avant les années de fermeture. Je crois qu'on a jusqu'à septembre, mais quand même, dépêchons-nous. Ça vaut vraiment le coup. C'est une des grandes expositions en ce moment.
Effervescence. La culture nous unit sur RCF.
Régulièrement, Stéphane Covio, dans cette émission, vous nous racontez comment la restauration de certains tableaux permet de les redécouvrir complètement. Ces travaux coûtent très cher et de plus en plus, les institutions, les musées mettent en scène ces restaurations. C'est ce qui se passe au Louvre actuellement, où la restauration d'un des plus célèbres tableaux du flamand Van Eyck est l'occasion d'une exposition très didactique. Ce tableau, c'est la Vierge du chancelier Rollin, autrefois connue sous le nom de Vierge d'Autun. Je dis Autun parce que j'ai habité en Saône-et-Loire, donc voilà. Vous nous racontez cette exposition, Stéphane ?
Alors, c'est magnifique. Van Eyck, c'est un peintre dont il reste 32 œuvres. Au Louvre, on en a une qui vient d'Autun parce qu'elle a été réalisée pour le chancelier Rollin, qui était le premier ministre, enfin, le chancelier du duc de Bourgogne. On est au milieu du 15e siècle. Et donc, c'est devenu son épitaphe, d'une certaine manière, une image épitaphe dans sa chapelle funéraire dans une église qui n'existe plus à Autun. Ce tableau a été nettoyé. La restauration, ça a été essentiellement un nettoyage. Il était tout jauni par les vernis. Et là, donc non seulement il est nettoyé, mais il est magnifiquement présenté au public. C'est-à-dire, il est seul, enfin pas seul, mais il est au milieu d'une salle, à portée de regard, très proche, on peut s'en approcher. Toutes les couleurs sont transformées, sont beaucoup plus lumineuses, tout est beaucoup plus clair, tout est beaucoup plus lisible, il est splendide là, tel qu'il est montré. Et puis à l'occasion de cette fin de restauration, une historienne d'art, Sophie Caron, a présenté tout un travail de réflexion sur ce tableau. Le fruit de ces réflexions, de cette étude, est présenté tout autour, avec beaucoup d'autres œuvres aussi. Notamment, actuellement, il y a 5 autres tableaux de Van Eyck. C'est rarissime. Il y a une annonciation qui vient de Washington, fabuleuse. Il y a le portrait de Baudouin de Lannoy qui vient de Berlin, c'est très très beau aussi. Il y a la stigmatisation de Saint-François qui vient de Philadelphie. C'est des choses rares.
Là aussi, il faut se presser d'y aller.
Bah oui, franchement, c'est absolument splendide. Pour moi, c'est vraiment un trésor ce qui est actuellement dans cette salle. Il y a une petite queue pour entrer, c'est normal. Les entrées sont contingentées. Il y a des enluminures magnifiques. Et il y a tout le fruit de la réflexion qui est proposé là, notamment sur le double usage possible de ce tableau. J'ai évoqué son usage comme épitaphe. Ah oui, parce que on y voit le chancelier Rollin d'un côté, tourné vers la Vierge qui est de l'autre côté. La Vierge étant assise, lui est à genoux. Elle est dans une grande robe rouge. Elle tient l'enfant Jésus sur ses genoux. Et de loin, on voit les deux figures l'une en face de l'autre. Donc, c'est la mémoire de Rollin et de sa piété, et peut-être même la sollicitation vis-à-vis des gens qui passent de prier pour lui et son salut dans une chapelle funéraire. Et en même temps, ce tableau est plein de détails, plein de petits détails. C'est l'arrière-plan du tableau, donc c'est un tableau qui peut être vu de loin sous forme d'épitaphe, mais de près, quasiment comme un livre. Yeah. Et c'est un des propos de la conservatrice, là, d'évoquer le rapprochement entre l'image et ses détails et un livre dans lequel on peut s'abîmer en contemplation.
Avec un très beau paysage et deux petits personnages mystérieux.
Et un petit pèlerinage à faire dans le paysage entre la gauche et la droite, direction du Christ.
Pressez-vous, allez au musée du Louvre découvrir cette exposition consacrée à Van Eyck. Alors, on change complètement de sujet dans Effervescence. j'aurais peut-être dû mettre une petite musique pour enchaîner. On va quitter les expositions, les beaux-arts, on va se retourner devant notre petit écran et on va s'intéresser à la nouvelle série à succès de Netflix, la plateforme Netflix. Ça s'appelle Le problème à trois corps. C'est une série qui est inspirée d'un best-seller de la littérature de science-fiction chinoise. L'auteur à succès, c'est Liu Xingxin. Et pour le livre, qui est donc à l'origine de cette série, qui s'appelle Le problème à trois corps, on parle de hard SF, de hard science-fiction. C'est-à-dire que dans ce livre, tout est vraisemblable et repose sur des fondements scientifiques et techniques plausibles. Alors, Victoria, je me tourne vers vous. Est-ce que c'est le cas pour l'adaptation, pour le petit écran? Est-ce qu'on y croit?
Alors, oui, on y croit. On y croit. Alors après, moi, je suis pas scientifique, hein, donc dans le détail, je saurais pas vous dire exactement. Mais en tout cas, c'est le genre de série qu'on aurait envie de voir deux fois, pour être sûr d'avoir bien tout compris. C'est le genre de série devant laquelle il faut pas s'endormir, sinon c'est fichu, on comprend plus rien. C'est le genre de série qui continue à trotter dans la tête une fois qu'on a avalé les 8 épisodes d'environ une heure. Elle reste bien en mémoire. Donc cette série, elle fait le buzz d'abord parce que c'est l'œuvre des showrunners, comme on les appelle, de Game of Thrones.
Alors c'est vous traduisez showrunner.
Showrunner, c'est les ils dirigent la série. Ouais, ils réalisent, ils écrivent, ils encadrent toute la série. Donc ils s'étaient occupés de Game of Thrones. Petit succès. Donc, ils sont très attendus sur ce retour. Et puis, parce qu'elle adapte, vous l'avez dit, ce best-seller de science-fiction. Le pitch est simple, contrairement au reste de la série, c'est « Et si la Terre était visitée par une intelligence extraterrestre ?» Ça, c'est simple. Dans le détail, c'est un agent du gouvernement britannique qui s'associe à d'anciens étudiants d'Oxford pour enquêter sur une vague de suicides qui touche la communauté scientifique. Leur recherche va les mener jusqu'à un jeu de réalité virtuelle basé sur un problème de physique avancée et surtout les mener jusqu'à une scientifique de génie. Celle-ci, dans les années 60, a pris une décision qui a des répercussions spatio-temporelles jusque dans le présent. Évidemment, je ne peux pas vous dire laquelle, quelle décision elle a prise, sinon je vous divulgâche toute la série.
Une trentaine de scientifiques est mort ces deux derniers mois.
Quelle horreur. Encore un compte à rebours.
Est-ce que quelqu'un d'autre l'a vu ? Leur est-il arrivé?
Quelqu'un ou quelque chose s'en prend aux scientifiques. Ils cherchent les esprits les plus brillants.
Il y a quelqu'un derrière chaque chose. Si on creuse, on trouve.
Voilà, c'est un peu anxiogène, non?
Ouais, c'est un peu anxiogène. Et puis bon, il y a plein d'éléments, etc. Donc faut tout prendre, faut tout bien mélanger. Et puis on obtient une série assez étonnante, une série qui pose plein de questions, notamment d'espace et de temps. On aurait presque envie, pendant qu'on regarde, de faire des petits schémas sur un bout de papier pour être sûr de bien comprendre les contraintes de temps, d'espace évoquées dans la série et savoir si effectivement c'est crédible. C'est aussi une série très ambitieuse visuellement. Il y a certaines scènes vraiment grandioses, notamment une sur un bateau qui est complètement dingue. Stéphanie, je pensais que vous alliez me demander ce que signifie ce titre. Le problème à trois corps.
Je vois que c'est une théorie de physique, mais je voulais pas poser la question.
J'ai creusé parce que moi je suis plutôt littéraire, donc je me suis dit je vais me faire coller.
Donc j'ai posé la question.
J'ai fait mes petites recherches. Donc le problème à trois corps, c'est la croisée de plusieurs théories physiques. Le problème à trois corps consiste à se demander comment trois objets célestes peuvent graviter les uns avec les autres et à prédire leur trajectoire et vitesse respectives. Avec ça.
Voilà, ça s'appelle Le problème à trois corps. C'est un peu plus simple sur Netflix. C'est une série en, vous nous avez dit,
8 épisodes.
8 épisodes.
We'll be right back.
Et c'est sur le riff de guitare de Deep Purple que nous continuons cette émission Effervescence. Nous arrêtons un moment sur la culture métal à l'occasion de l'exposition organisée à la Philharmonie de Paris. Après le hip-hop, après l'électro, après le reggae, la Philharmonie met en avant la musique dite métal. Pour en parler, nous recevons Corentin Charbonnier. Bonjour.
Bonjour.
Alors j'ai vu sur votre site que vous êtes musicien de studio. Je crois que vous jouez de la harpe. Vous confirmez ?
Tout à fait.
Et dans le métal, il y a de la harpe ?
Oui, on a dans le power, dans le sympho. On a de plus en plus de groupes, quelques sur les scènes, qui jouent avec des orchestrations, qui jouent avec des grands orchestres. Je pense à cette petite flèche qui enregistre avec le Philharmonique de Prague, par exemple. Donc oui, il y a beaucoup de musiciens classiques. Il y a beaucoup de musiciens dans le métal qui font du métal, qui ont eu une éducation classique d'ailleurs.
Vous êtes aussi un universitaire et vous avez écrit une thèse sur les publics du Hellfest. Alors le Hellfest est le plus grand festival de France, un festival qui se consacre aux musiques dites extrêmes. C'est comme ça que c'est expliqué sur sa plaquette de présentation. Vous êtes, et c'est pour ça qu'on vous reçoit aujourd'hui, l'un des deux commissaires de cette exposition organisée à la Philharmonie. Je voudrais que vous commenciez par nous expliquer qu'est-ce qui fait le lien entre tous ces artistes que vous présentez dans l'exposition et qui se revendiquent du métal.
En fait, le métal est arrivé avec une sorte de radicalisation du rock dans les années 60, avec l'émergence de trois gros groupes qui ont permis, on va dire, d'écrire le son métal au départ, qui sont Deep Purple, Led Zeppelin et Black Sabbath. Black Sabbath est certainement celui qui est reconnu comme l'ancêtre fondateur par ses techniques de jeu, par l'utilisation du triton. Et en fait, on parlait de hard rock au départ. Le terme est devenu heavy metal par le biais d'articles journalistiques et d'autres influences dans la fin des années 70. Et en fait, tout le reste est une sorte de ramification, un arbre géant de sous-styles de métal qui existent et coexistent.
Alors le lien entre toutes ces musiques, c'est quoi ? C'est la guitare ?
Le son, les paroles, l'engagement. On est une musique qui est relativement engagée et le public surtout qui a toujours été présent en fait. Le métal forme vraiment une communauté avec un public qui reste en fait. C'est contrairement aux musiques populaires qu'on voyait dans les années 60, 70, même 80, 90 où c'était des mouvements jeunes qui perduraient pas au-delà de 10, 15, 20 ans. Le métal perdure depuis maintenant plus d'un demi-siècle.
Alors je vais vous poser une question un peu provoque, mais je sais que beaucoup d'auditeurs se la posent. Est-ce que c'est vraiment de la musique ? Je sais que certains trouvent que cela tient plus du bruit que de la mélodie.
Alors ça c'est drôle, mais c'est effectivement, je peux comprendre que l'habituitance à la musique métal, elle est pas simple parce que vous avez des styles qui sont relativement extrêmes. Je pense au grindcore, au black metal, où si on n'est pas sensible au départ, qu'on n'a pas été sensibilisé par du rock et du hard rock avant, pendant un bon moment, c'est très compliqué de s'y mettre. Et en même temps, tout le monde a déjà écouté du métal, puisque dans le métal, on a aussi de la musique très mélodique. On a les grandes ballades des années 80, je pense à Guns N' Roses, je pense à Scorpion, Nazareth. Et en fait, on se rend compte qu'il y a du métal qui est relativement doux et accessible. Et en plus de ça, bah, effectivement, si on aime la musique classique, on peut très bien les diriger vers la musique, le métal dit symphonique, dans lequel on va retrouver des chanteuses d'opéra soprane qui chantent avec des groupes de métal. Donc, non, il y a du métal plus accessible que d'autres.
Alors, beaucoup de ces artistes ont une réputation sulfureuse. Beaucoup des patronymes utilisés singent des thèmes religieux, se revendiquent du diable. Comment le comprendre ? Est-ce que c'est de la pure provoque ? Est-ce que ce sont des personnages de scène ?
Concrètement, l'opposition du métal, c'est toujours effectué par rapport aux institutions. Et dans un contexte des années 70-80, les oppositions les plus simples, c'était les oppositions au gouvernement et à la culture religieuse, qui était encore très présente, surtout dans les pays anglo-saxons. On va pas se mentir, il y a quelques groupes qui ont eu des dérives, je pense à des groupes norvégiens qui sont pas spécialement pardonnables d'avoir brûlé des églises dans les années 90, mais on reparle de 4-5 groupes, on parle pas non plus de milliers de groupes dans le métal. Après, jouer avec tout ce qui peut permettre de choquer a toujours été un des enjeux du métal. Ça permet de s'opposer, ça permet aussi de questionner, ça permet aussi d'embêter. On a beaucoup de groupes qui jouent avec l'imagerie religieuse, beaucoup qui jouent, et c'est une discussion que j'avais eue sur des colloques universitaires entre autres, mais on peut comprendre que ça choque. C'est aussi dans l'ADN du métal de vouloir choquer. Pour autant, il n'y a pas de croyance derrière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de satanisme en tant que croyance dans le métal.
C'est juste de la parodie, c'est ça ?
Il y a un gros côté parodique. Il y a un côté rébellion contre l'institution.
Pour vous, quelles sont les valeurs dans le métal ?
Alors le métal, au niveau des engagements, est très intéressant. Je pense qu'il y a toujours cette connotation d'engagement dans le métal, à la fois d'engagement du public par rapport aux artistes, par rapport à la scène, en termes généraux, mais également un engagement qui peut être politique, qui peut être écologique. Par exemple, on le voit, il y a beaucoup de groupes aujourd'hui dans le métal sont sensibles à la question écologique. Il y a une quantité astronomique de groupes aussi engagés pour l'équité, c'est-à-dire à la fois pour une présence de plus en plus féminine dans le métal, que ce soit dans une dynamique d'inclusion, puisqu'aujourd'hui, dans le métal, c'est l'une des gros. Tout le monde se pose la question, si bien les organisateurs que le public, sur comment on peut permettre à toute personne en situation de handicap d'être accueillie dans les meilleures conditions dans le cadre d'un festival ou d'un concert. Donc on a vraiment une sorte d'engagement. En fait, c'est pas une musique qui est déconnectée de la société, c'est une musique qui est totalement en phase avec les problématiques de la société actuelle.
Corentin Charbonnier, on a commencé avec un classique de Deep Purple, mais il y a aussi une jeune scène, et même en France. Hein, et vous m'avez suggéré le groupe Betraying the Martyr. Vous nous les présentez ?
Alors Betraying the Martyr, c'est un groupe qui a été formé en 2008, qui était à l'origine du metalcore chrétien, qui a évolué, qui a joué jusqu'à l'année dernière, y compris leur entre guillemets retraite en début d'année, c'est-à-dire qu'ils vont se consacrer respectivement à d'autres groupes, à d'autres sous-genres, mais qui a largement marqué la scène française, puisqu'aujourd'hui, la scène française, on a une scène française qui est très vivace et qui est très intéressante. Et Betraying a cette particularité, du fait d'être aussi du metalcore, de mêler des chants gutturaux, donc assez durs à apprécier, et vraiment une musique chantée.
Eh bien, on les écoute et on écoute le morceau Black Hole. Corentin Charbonnier, j'ai évoqué le Hellfest, 200 000 visiteurs pour la dernière édition. Comment est-ce qu'on explique l'engouement populaire pour ces musiques ? Qu'est-ce qu'on y cherche quand on va voir un festival de métal ?
En fait, le contexte du Hellfest est intéressant. Il s'est créé en 2006 dans un cadre où il y avait très très peu de festivals en France et encore moins de festivals liés à la musique métal. Donc il arrivait dans une sorte de pénurie, dans un moment où les festivaliers, enfin les passionnés de musique métal cherchaient un festival à faire plutôt que d'aller jusqu'en Allemagne au Wacken ou d'aller en Angleterre. Et il s'est très rapidement développé dans la culture métal parce qu'il était pilier de l'identité métal. C'est-à-dire que dans les années de 2006, on va dire jusqu'à 2015 globalement, les 10 premières années, c'était vraiment connu pour être le lieu de la culture métal, des passionnés. Et du coup, y aller, c'était d'un point de vue très identitaire, ça donnait une plus-value. En plus, c'est le lieu où on fait référence à tous nos artistes disparus. Je pense que l'intérêt du Hellfest aussi, c'est d'être empreint de religiosité en quelque sorte, puisque le métal se construit vraiment comme une sorte de pèlerinage. Le Hellfest en est devenu un. Il reprend tous les codes d'un pèlerinage à Lourdes, par exemple, mais autour de la culture métal. Voilà, pour le faire de manière très simple, donc on a une forte ritualisation, des lieux de recueil comme le mausolée de Lemmy, Motorhead, etc. Et maintenant, le Hellfest est devenu énorme pour la simple et bonne raison que, alors qu'à une époque, il permettait de donner un sens à son identité métal, aujourd'hui, c'est une porte d'entrée aussi pour le métal. C'est aussi le lieu qui permet de découvrir cette culture-là dans un cadre accessible et dans un grand lieu de rassemblement et très festif.
Et pour vous, face à la déferlante du rap, il y a encore un espace pour la musique métal ?
En fait, le métal a réussi à survivre depuis les années 70 sans avoir été valorisé par les médias généralistes. Alors même que l'économie du hip-hop était en train d'exploser, le métal n'était pas, l'ensemble de la scène métal n'était pas touché de la même façon. Et on a des groupes aujourd'hui légendaires et surtout des groupes qui continuer de jouer. Donc Metallica est toujours là, pourtant ils ont commencé en 83, Deep Purple rejoue en fin d'année alors qu'ils sont là depuis les années 60. Il y aura toujours un espace pour le métal parce qu'il y aura toujours un public qui perdure. La moyenne d'âge au Hellfest, c'est pas loin de 40 ans aujourd'hui. Et donc, c'est-à-dire qu'on a des gens qui restent dans cette culture et qui sont ce que j'appelle moi des consommateurs. C'est-à-dire qu'ils sont très consommateurs de leur culture. Ils ont toujours un budget CD, vinyle, cassette, t-shirt. Et en même temps, ils vont au concert. Donc, tant qu'on aura un public qui se déplacera et qui continuera de faire vivre cette culture, oui, ça va continuer. Aucune raison que ça s'arrête.
Corentin Charbonnier, on se quitte avec un autre grand classique, All Lotta Love de Led Zeppelin. Vous nous rappelez ce que représente Led Zeppelin pour le métal ?
Led Zeppelin, c'est l'un de nos trois fondateurs, c'est l'un de nos trois piliers fondateurs. C'était un des groupes qui a ramené des techniques de jeu, des techniques vocales et qui a ramené une esthétique particulière dans le métal, dans les origines du métal, donc plutôt dans le rock et ramification vers le hard rock dans les années 60. Donc, ça fait partie aussi de nos mythes fondateurs, entre guillemets.
Give you my love.
Led Zeppelin, Wolota Love, pour terminer cette séquence consacrée à l'exposition de la Philharmonie sur le métal. Merci à Corentin Charbonnier de nous l'avoir présenté. Merci également à Stéphane Covio, à Victoria Jacob d'avoir participé à cette émission. Rien ne serait possible évidemment sans le génie de Pierre-Henri Paget pour réaliser cette émission. Je ne vous quitte pas sans vous glisser dans vos oreilles une citation. Elle est signée Constantin Brancusi. C'était au catalogue de son exposition new-yorkaise en 1925. Les choses ne sont pas difficiles à faire. Ce qui est difficile, c'est de nous mettre en état de les faire. Bon week-end à tous.